Collège public CADES, bonjour. La leçon d'aujourd'hui, vivre sans culpabilité, première partie.
Ok, on va reprendre. Alors, juste pour terminer avec la pensée qu'on avait tout à l'heure, sur le fait que si on veut changer, c'est notre façon de penser qui doit changer. Et commencer à dire ce qui est vraiment vrai. Qu'est-ce que la vérité? Ou qui est la vérité? La réponse, c'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. C'est sa parole qui est la vérité. Sa parole, c'est bien sûr ce qu'il dit, mais aussi c'est tout ce qu'il nous enseigne par son comportement, par la manière dont il faisait les choses, par comment est-ce qu'il vivait, par comment est-ce qu'il communiquait avec les gens, comment est-ce qu'il vivait avec les gens, comment est-ce qu'il partageait la vie des gens. C'est toutes ces choses-là qui nous parlent de ce qu'il est la vérité. Donc comment est-ce que moi, je vais changer ma façon de penser? C'est en commençant à dire ce qui est vrai. C'est-à-dire à dire ce que lui dit qui est vrai. Parce que ce changement, il ne peut venir que de l'intérieur. Le vrai changement dans ma vie, il vient de l'intérieur. Si ça vient de l'extérieur, je vais juste conformer ma vie à quelque chose. Mais elle ne va pas être transformée. Et on peut gâcher énormément de temps dans nos vies en ayant des vies conformes à quelque chose. Mais le vrai changement, il commence à l'intérieur. Et c'est une transformation, une réformation ou une reformation. Parce que sinon, ça va être juste quelque chose de religieux, ça va être une apparence. Mais les gens ne sont pas dupes très longtemps. Parce que pourquoi la vérité, c'est beaucoup plus facile à gérer? C'est parce que la vérité, elle ne va pas changer. Sinon, elle ne serait pas la vérité. Parce que la vérité, elle est absolue. Et si je commence à vivre dans la dissimulation, dans la conformité et pas dans la transformation, à un moment ou à un autre, je vais être confronté à la réalité. Et moi et les autres, tout le monde va voir que ça ne colle pas, que j'ai un discours, mais que dans le fond, ce n'est pas vrai. Et si vraiment on veut vivre un vrai changement, une véritable transformation, il faut que ça vienne de l'intérieur. Et comment est-ce que ça vient de l'intérieur? Ça commence dans le siège de mes pensées. Parce que comme on l'a vu, Proverbe 23:7, tel un homme pense, tel il est. Ou Jésus qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, si vraiment on veut vivre ces choses-là, il va falloir qu'on conforme notre pensée à ce que Dieu dit, à ce que la parole de Dieu dit, à ce que la Bible dit. Colossiens 3, 2 et 4, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Galates 2, 20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis, c'est-à-dire dans mon corps, hein, pas charnellement, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Non seulement Christ est mort pour moi, mais désormais, il vit en moi. Jésus-Christ est ma vie. Ça, c'est mettre ma vie et ma pensée au niveau de la vie et de la pensée de Dieu. Désormais, je ne me regarde plus selon la chair, mais je me regarde selon le regard que Dieu a sur ma vie. Et comment? En affectionnant les choses d'en haut. C'est-à-dire en ne m'arrêtant pas à ce qui se voit, mais en disant ce que Dieu voit. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que nous avons l'ADN de Dieu en nous. C'est un sujet que j'aime bien. Nous avons été génétiquement modifiés. Nous sommes des OGM, des ODN, divinement modifiés. Dieu a mis sa vie en nous et avec la vie de Dieu en nous, nous avons aussi tout ce qui fait partie de la vie de Dieu en nous. Dans, je ne sais plus quel verset qui dit, dans la langue sont la vie et la mort. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Et ce que je confesse, ça va déterminer la qualité de vie que je vais vivre. Et si je confesse les choses d'ici, ma vie elle va être au niveau des choses d'ici. Si je confesse les choses d'en haut, et ce n'est pas la méthode au coin, hein. C'est pas je vais bien, tout va bien, c'est pas ça. C'est, je mets ma confiance dans quelqu'un qui est plus grand que moi, et qui connaît mieux que moi, et qui sait mieux que moi, et qui voit mieux que moi. Parce que ma perspective, elle est tellement petite que je ne peux pas embrasser le paysage comme Dieu le fait. Pour que je puisse voir, embrasser le paysage avec le regard de Dieu, il faut que je me mette à l'endroit, au bon endroit, à l'endroit où Dieu considère les choses. Et c'est où ? Ben c'est ce qu'il dit, c'est ce que lui déclare de moi. C'est ce que lui dit de ma vie, c'est ce que lui dit de mon avenir, c'est ce que lui dit de la valeur que j'ai, et c'est ce que lui dit des promesses qu'il a fait sur ma vie. Et je crois que toutes choses ont été créées par la parole, et je crois que parce que nous avons la vie de Dieu en nous, quelque part, on devient un petit peu comme lui à ce niveau-là aussi. Et que si c'est comme je pense que je suis, c'est aussi ce que je dis, c'est ce que je pense. Vous voyez ? Et quelque part, ce que je vais dire et confesser, c'est quelque chose qui est vivant, qui a une puissance en lui. Une puissance de création ou de destruction. Une puissance de vie ou de mort. Et en ça, il faut que je sois vigilant et que je désapprenne. Et ça, ça va peut-être demander de la discipline. Ce n'est pas quelque chose, je ne crois pas, qui se fait d'un claquement de doigts comme ça. On est tellement imprégné par la négativité, par le pessimisme, par les problèmes. C'est pour ça que tout le temps, Jésus, tout le temps, il nous incite à ne vous faites pas de soucis. Occupez-vous de ce qui a de la vraie importance, parce que votre vie, elle est là. Je ne sais pas si vous faites pareil, vous. Moi, j'aime bien parler avec Dieu. J'aime bien me promener parce que ça me permet de parler avec Dieu. Et au fur et à mesure que je dis les choses à haute voix, j'entends mieux ce que je pense. Et comme j'entends mieux ce que je pense, je me rends compte si ça colle ou si ça colle pas. Mais tant que ça reste dans ma tête, c'est un peu confus. Ça rebondit partout. Mais quand je me balade le soir, et je me mets dans un coin et je parle avec Dieu, je dis, tiens, il y a ci, il y a ça. Ah, j'ai dit ça. C'est pas vraiment ça. Vous voyez, ça m'aide. Le fait de verbaliser, de dire les choses, ça me permet de mieux comprendre ce que je pense. C'est un peu bizarre, hein, peut-être, mais... en tout cas, moi, je... ouais, d'accord. Vous êtes comme moi, je ne suis pas tout seul. Et du coup, ben, c'est en ça aussi que c'est important de faire attention qu'est-ce que je suis en train de confesser. Parce que ça a un vrai pouvoir, parce que ça influence ma façon de penser. Et parce que ça influence ma façon de penser, ça influence aussi mon comportement. Et comme on a cet ADN divin, ce n'est pas anodin ce que je dis et ce que je pense. Et j'ai besoin donc d'être transformé de l'intérieur pour que ça puisse à un moment donné se voir à l'extérieur. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans les changements, c'est que bien souvent, c'est les autres qui s'en rendent compte plus que vous. Hein ? Ouais. Souvent. Souvent, c'est les gens qui viennent te voir et te disent « Ah, t'as changé !» Grossi, non, c'est pas comme ça. C'est vrai, moi je vois, je m'étais éloigné du Seigneur pendant assez longtemps, je vous en avais parlé hein, il y a quelques temps. Et quand j'ai revu notamment Richard, c'est un frère avec qui j'ai vécu pas mal de choses il y a longtemps, on s'est perdu de vue pendant très longtemps. Et quand on s'est retrouvé, je vous avouerai que quand on m'a dit ouais, il y a un gars qui va venir, tu le connais, c'est Richard. Il dit ah. Pas qu'on a eu des mauvais rapports, mais je ne savais pas trop sur quel pied danser, si je devais m'en réjouir ou pas. Et quand on s'est vu, la première chose qu'on s'est dit tous les deux, c'est « j'en reviens pas comme Dieu t'a changé ». Vraiment, vraiment. Pas que j'avais une mauvaise pensée sur lui, je n'avais pas un mauvais souvenir de Richard, juste je ne me rappelais pas qu'on ait eu quelque chose de très intime ou vraiment ça accrochait. Et vraiment, j'ai vu quelqu'un de transformé. Mais ce qui m'a fait drôle, c'est qu'il a dit pareil de moi. Il m'a dit, mais toi aussi, tu as changé. Il m'a dit, il y a une douceur chez toi que je ne connaissais pas. Vous imaginez comment je pouvais être. Mais ça m'a parlé, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait pas après pas, parce qu'on marche avec Dieu. Parce qu'on accepte ce joug doux et léger. Et qu'on accepte cette marche quotidienne. Elle est belle, cette image. Ce n'est pas une course de rapidité. Le travail de la terre, c'est quelque chose de long et de lent, qui demande de la patience. C'est un travail d'escargot ou de bœuf. Les bœufs, ça va doucement, mais ça porte beaucoup. Et ça tire beaucoup, surtout. Les éléphants, c'est pareil. Quand ils travaillent, ils travaillent dans la force. C'est la lenteur, c'est quelque chose de posé. Et c'est quelque chose d'efficace en même temps. Et donc, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Et parce que c'est quelque chose de progressif, au jour le jour, on peut très bien ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Et finalement, c'est tant mieux. Parce que du coup, c'est une bonne surprise. Des fois, on arrive au bout de la rangée, on se retourne, on dit « Waouh, j'ai avancé ». C'est ce type de marche-là et c'est ce type de transformation-là. On le voit même dans la vie des disciples. Prenez Pierre ou Jean, qui sont les plus frappants. On voit au début, on voit à la fin, on voit ce processus de transformation. On voit cette douceur qui vient. Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Et au début, c'est le fils du tonnerre quand même. On oublie facilement. Pierre, c'est celui qui coupe les oreilles. Et vraiment, il y a cette progression, cette marche, parce qu'on accepte ce joug quotidiennement. Et ce processus de transformation va se faire. Et pour que ce processus de transformation puisse se faire, on va commencer à développer un sujet qui est la nécessité de vivre sans culpabilité, sans mauvaise conscience. Alors c'est quelque chose qui peut-être parfois va heurter un petit peu notre compréhension, mais vous allez voir qu'in fine, c'est vraiment quelque chose d'important, de capital même. Parce que on peut facilement trouver du bien fondé à cultiver une certaine culpabilité, mais on va voir que ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Et qu'en fait, si réellement on veut entrer dans cette pleine liberté acquise pour nous par Jésus à la croix, et vivre dans la pleine victoire et la pleine libération qui s'y rattache, on va avoir besoin de laisser aussi tomber ce type de fardeau. Donc, il va falloir régler le problème de la honte, de la condamnation et de la culpabilité. Parce que jamais tu ne vivras une vie de succès palpitante, victorieuse, sur le plan de tes émotions et de ta vie spirituelle, si le problème de la honte, de la condamnation et de la culpabilité n'est pas réglé. C'est comme si tu essayais de voler avec des chaussures en plomb. Ça ne va pas marcher. Tu pourras peut-être faire des petits bonds. Ça sera plutôt le vol du kangourou. Mais tu ne vas pas réellement pouvoir décoller. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui dans le corps de Christ comme une gangrène, une malédiction qui paralyse le corps de Christ. Réellement. Cette culpabilité, ce mauvais regard qu'on a sur soi. La condamnation, les obligations, la crainte, la culpabilité sont les mots qui affectent le christianisme et qui nous font vivre une vie médiocre, tellement en dessous de la vie que Dieu veut pour nous. Ça nous désarme, ça nous paralyse, et ça a commencé il y a des siècles déjà. Déjà Paul commençait à se battre contre ça. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis et qui démontre que le groupe qui souffre le plus de la culpabilité et les évangéliques charismatiques de type pentecôtiste. Enfin, c'est les chrétiens d'une manière générale. Les chrétiens sont le groupe qui souffre le plus de la mauvaise image de culpabilité, de honte, et sans doute c'est dû, ça, moi c'est mon analyse, c'est sans aucun doute dû à notre culture du résultat. On essaie de nous faire croire et on essaie de se faire croire qu'on est par ce que l'on fait. Alors, c'est pas complètement faux, mais c'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr que ce que je fais, ça devrait en tout cas démontrer ce que je suis, mais ce que je fais ne peut pas déterminer ce que je suis. Parce que si je ne peux pas être au standard, ça va me détruire. En fait, ce sentiment qu'on retrouve partout, hein, a priori, d'après cette étude, sont les chrétiens qui en souffrent le plus, ça commence à l'aube de l'humanité. Avec nos chers arrière-grands-parents, Adam et Ève, qui furent les premiers à éprouver la honte et la culpabilité. Et ça trouve ses racines dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors la culpabilité, la définition de la culpabilité, donc c'est l'état de quelqu'un coupable d'une infraction ou d'une faute, mais c'est aussi le sentiment de faute ressenti par un sujet, que cette faute soit réelle ou pas. Chez les chrétiens, ça va être fréquemment le sentiment d'avoir offensé le Dieu saint et juste et le sentiment d'être séparé de Dieu dans l'attente d'une punition. C'est souvent ça qui va déclencher ce genre de ressentiment. Et tous, nous devons reconnaître que beaucoup de nos actes et de nos paroles et de la manière dont on développe notre relation avec Dieu ont souvent un fond de culpabilité ou des motivations cachées. Notre théologie est tellement polluée par ces sentiments de culpabilité, de honte et de condamnation qu'on n'arrive pas à s'en détacher et à entrer dans la pleine liberté de Christ. Bien souvent, on arrive devant Dieu avec des tas d'arrière-pensées. Et si, et si, et si, et si. On a du mal à croire tout ce qu'on a vu tout à l'heure. On a du mal à croire que Dieu puisse mettre autant de valeur alors que nous, on voit bien tout ce qui ne va pas. Encore une fois, parce qu'on ne se place pas au bon endroit. Tout notre arrière-plan, notre background, nous dit ces choses-là. Et à cause de ça, on s'approche de Dieu de la manière dont on a mal appris. On a mal appris et on croit que Dieu, il est comme les gens qui nous ont mal appris. On a été blessé et on croit que Dieu, il est comme les gens qui nous ont blessés. On a dit qu'on nous aimait et on nous a fait du mal et on croit que Dieu va faire la même chose. Et même nous, on a dit qu'on aimait et on a mal aimé et on croit que Dieu, il est comme nous. Et à cause de ça, ça va complètement polluer la manière dont je vais comprendre, même quand Dieu me dit qu'il m'aime, je ne le crois pas. Mais on le voit, combien de fois les gens ils viennent vers vous, ils te disent « Ah Thierry, je suis tellement content de te voir, et toi tu es là. » « Ouais. Qu'est-ce que tu veux ?» Il n'y a que moi ou c'est elle vous le fait aussi? Rassurez-moi. C'est ça, parce qu'on a grandi tordu. On a grandi tordu, plus ou moins, puis ça affecte chacun d'une manière ou d'une autre. Différente, c'est vrai qu'on trouve toujours pire. Et c'est vrai que des fois, ça fait drôle de regarder comment quelqu'un qui, entre guillemets, a une vie relativement protégée peut être tordu, autant, voire plus, que des gens qui ont été littéralement broyés par la vie. Moi, j'en reviens pas. J'ai entendu des choses, mais tu taperais la tête contre les murs. Des gens qui disent à quelqu'un qui a été orphelin et qui lui dit « Oh, t'as de la chance de ne pas avoir tout connu tes parents, parce que moi, mes parents, ils me prennent la tête. » Franchement, quoi. Mais c'est la réalité de cette personne. Moi, je trouve que c'est aberrant d'en arriver là. C'est extrême. Mais n'empêche que quelque part, on est quand même un peu dans cette pensée-là. Mais c'est intéressant, je trouve aussi, de se rendre compte qu'on ne peut pas comparer les choses comme ça. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant. Ne considérons plus personne selon la chair. Parce que mon maître étalon, il s'applique à moi, mais il n'est pas valable pour les autres. Et ce qui me fait du mal, pour beaucoup d'entre vous, peut-être, c'est de la gnognotte. Parce qu'on devient soi-même le maître étalon. Quand on se réfère à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on l'avait vu dans le cours, le premier ou le deuxième, je ne sais plus, on devient le maître étalon. C'est-à-dire que ce fruit de l'arbre nous a donné cette capacité de déterminer nous-mêmes et pour nous ce qui est bien et mal, ce qui est juste ou pas. Et à cause de ça, on traverse les expériences d'une manière différente, mais en même temps, on juge les autres par rapport à notre critère à nous. Et donc, si moi j'ai vécu quelque chose de difficile, je dis, mais pourquoi ? Lui, il n'y arrive pas. Et on est arrogant. Et moi, j'étais comme ça avant. Plus. Pendant longtemps, tout ce que je faisais, ça marchait. J'étais, entre guillemets, talentueux. Je faisais du sport, j'étais bon en sport. Je faisais de la musique, j'étais bon en musique. J'étais dans l'église et je faisais plein d'activités et tout marchait. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi il y en a qui n'y arrivaient pas. Tiens, mais ils n'ont qu'à faire comme moi. Mais en même temps, moi-même, j'avais aussi une mauvaise image parce qu'il y avait des gens qui, pour moi, étaient des modèles et je me disais, j'y arrive pas. Mais du coup, ça me rendait encore peut-être plus dur vis-à-vis de ceux qui y arrivaient moins bien que moi. Mais tout ça parce que toujours on a ce cadre de référence, moi. Donc, on doit reconnaître tous, autant que nous sommes, que beaucoup de nos actes, de nos paroles, les relations qu'on a avec Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un fond de culpabilité ou des motivations cachées. On est intoxiqué par une mixture issue du mélange du système légaliste de l'Ancien Testament et du message de libération du Nouveau Testament. On essaie de faire marcher l'huile et l'eau ensemble, et ça ne marche pas. Quand tu mélanges l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec l'arbre de vie, ça devient quelque chose de toxique. Notre mauvaise relation avec Dieu est proportionnelle avec notre besoin ou notre capacité de faire. Notre mauvaise relation avec Dieu, elle est proportionnelle à notre besoin ou notre capacité de faire. Et en plus, je vais être capable de faire, et plus ma relation avec Dieu va être mauvaise. Pourquoi ? Parce que j'ai de moins en moins besoin d'entendre ce que lui a à dire. Je deviens mon propre juste, mon propre juge et arbitre. Et donc, on devient soumis à la pression des « tu dois ». Tu dois prier, tu dois lire ta Bible, tu dois donner ta dîme, tu dois évangéliser, tu dois être fidèle à ton église, si tu veux être un bon chrétien. Et tout en partant de très très bonnes intentions, on arrive à détruire des gens. Parce que tant que tu arrives à peu près à suivre le rythme, tu vas te dire « ouais, je suis bon, je suis bien ». Le jour où tu commences à plus arriver à suivre le rythme, là tu te sens mal, 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 mal. Parce que tu vas entrer dans la comparaison, tu vas entrer dans la compétition, et tu vas augmenter cette capacité à culpabiliser et à mal vivre ta relation avec Dieu et puis avec les autres. Parce que du fait qu'on va entrer dans la comparaison, on va avoir ce besoin de reconnaissance. Et bien souvent, le système religieux favorise ça. On a bien parlé l'autre jour, là, des rouleurs de bouse. Et on va comparer nos bouses. On va comparer ce que je suis capable de faire. Moi, je fais mieux. Toi, tu fais moins bien. Oui, mais moi, les mieux. Moi, c'est plus gros. Moi, c'est plus petit. Et on va comparer ces choses-là en pensant que ça nous donne une valeur. Alors que la valeur que nous avons, elle n'est pas dans notre capacité à faire. Elle est dans notre capacité à dépendre de Dieu et à faire confiance dans ce que lui dit. Et donc, au lieu d'apprendre à vivre sur les capacités de Christ, nous cherchons à plaire à Dieu par nos actes en croyant que si on ne bouge pas, Dieu ne va rien faire. Combien de fois on le dit, hein? Même moi je l'ai dit des dizaines de fois. Tu fais le premier pas et Dieu fera le reste. Et c'est pas que c'est faux, mais c'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait comme ça. C'est parce que je comprends que je suis aimé que je vais commencer à faire confiance à Dieu et que comme Pierre, quelque part, je vais faire le premier pas en dehors de la barque. C'est pas mon initiative. Je réponds à un appel de l'amour de Dieu dans ma vie. Je crois que c'est ça tout le processus. Si on part dans l'autre sens, on est mal parti. Chaque fois qu'un homme ou une femme cherche à mériter l'amour, l'acceptation, le pardon et l'approbation du Dieu saint, ça conduit immanquablement à la condamnation, la culpabilité, la frustration et la crainte. Parce que notre standard ne sera jamais suffisant. Et il est clair, quand on étudie la vie de Jésus, que son ministère consistait à libérer les êtres de la honte. Quand on lit bien ce qu'il faisait, comment il se comportait, comment il était avec les gens, on voit que le but avéré, c'était de libérer les gens de la honte. De la honte qu'on leur mettait par la religion. Avec cette culture du « moi je fais bien », c'est le pharisien, et le public, hein, voilà, ou le samaritain. C'est celui qui fait et qui se donne une bonne apparence et celui qui est incapable. Et Jésus est venu pour briser ça. Il est venu pour libérer les gens de la honte. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il prenait les lépreux dans ses bras. Il parlait avec les femmes adultères. Déjà de parler avec les femmes, c'est pas terrible, mais en plus, si elles sont adultères, je vous dis pas. Il refusait de condamner. Il refusait de condamner. Quand bien même la loi semblait donner raison, il refusait de condamner. Il délivrait. Il guérissait, il buvait, il mangeait, il passait du temps avec les publicains. Les publicains, c'était la lie de la société. Il passait même du temps avec des femmes samaritaines adultères. Alors elle, il manquait plus qu'elle soit publicaine par-dessus le marché. Et elle était en dessous de tout. Les raclures, les balayures de la société. Et pourquoi il faisait ça? Parce qu'il voulait les délivrer de cette honte. Il voulait leur montrer qu'ils avaient de la valeur. Il mettait en opposition, vous dites que je suis le rabbi, que je suis le maître, que jamais personne n'a enseigné comme moi. Et pourtant, moi, je m'assois avec les pauvres. Je m'assois dans la poussière. Je passe du temps avec les malheureux. Je les prends dans mes bras. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur de l'image que vous avez de moi. Et à un moment donné, il dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Est-ce qu'il a besoin qu'on reconnaisse son ministère pour qu'il ait de la valeur? Non. Il voulait juste savoir si les gens comprenaient qui il était. Mais jamais son ministère n'a été influencé par ce que les gens pensaient de lui. Ce qui motivait toutes ses actions, c'était ce besoin viscéral qu'il avait de libérer les gens, Père. Père, Père. La valeur que tu as, elle n'est pas dans ta capacité de bien faire. Et donc, elle n'est pas non plus dans ton incapacité à faire ou à bien faire. Ce n'est pas ce que tu fais ou que tu ne fais pas qui fait que tu as de la valeur. C'est ce que tu es. Et c'est ce que Dieu a dit que tu étais. Et chaque fois qu'on va sortir de ça, immanquablement, on va entrer dans une zone où la culpabilité et la honte vont prendre de la place. Aujourd'hui, une bonne partie de ce qu'on appelle les ministères n'est en fait que de la manipulation de la honte et de la culpabilité. Une bonne partie, je n'ai pas dit tous, le ministère, c'est quoi ? Étymologiquement, c'est mettre un don au service de la communauté. Or, il s'avère que beaucoup de choses qu'on appelle ministère, ça consiste à mettre les autres au service de ce que nous, on détermine comme étant notre ministère. Et on se sert des autres pour grandir, on s'en sert de marchepied, on s'en sert de faire valoir. Je ne dis pas que c'est fait sciemment, je ne suis pas en train de dire ça, mais beaucoup de choses qui se font dans le christianisme à tous les niveaux. Et je ne parle pas que des gens connus et reconnus, mais à tous les niveaux, il y a énormément de ça dans ce qui se fait. Et ça nous pousse à croire que la vie chrétienne s'est basée sur une relation de cause à effet. Parce que je fais quelque chose, je mérite quelque chose. Ou parce que je ne fais pas quelque chose, je mérite quelque chose. Si tu es gentil, je le serai, et tu obtiendras quelque chose de moi. Si tu es soumis, tu obtiendras quelque chose de moi. Si tu fais ce que je dis être vrai, tu penseras être béni parce que tu te conformeras à ce que moi j'ai dit. Et on ne le fait pas exprès. Mais c'est malgré nous, mais c'est partout. Et dans la société, c'est pareil. Mais malheureusement, dans l'Église, on applique les mêmes mauvaises recettes que dans la société. Et en fait, tout ça, ça va pousser les croyants à vivre dans la honte, l'apitoiement de soi, ou, au contrario, dans la gloire propre. Et puis, même souvent, on va voir qu'il y a comme des cycles. Je m'apitoie sur moi-même, puis j'entre en compétition, donc je fais des efforts, donc je grandis, je deviens arrogant, devient propre au juste, et badaboum, et on recommence comme ça. Et on rend les gens un petit peu comme des toxicos, ils ont besoin de leur shoot. Et on le voit partout, il y a plein de gens qui sont en train de courir partout pour recevoir une bénédiction, pour recevoir une approbation, pour recevoir quelque chose. Je ne parle pas contre les ministères et contre les dons, je crois que c'est Dieu qui donne ces choses-là. Mais si dans notre attitude, on cultive une dépendance à ça, on est à côté. Parce que ce qui détermine ce que je suis, ce n'est pas les autres, c'est Dieu. Et donc, d'un côté, on fait des toxicos, et de l'autre côté, on va construire des empires sur le dos d'esclaves spirituels qui désespèrent d'être un jour en haut de la pyramide. Moi aussi, moi je veux. Moi je veux un don comme ça. Je veux voir des miracles. Je veux être comme ci. Et ça part de bonnes intentions. Hein. Mais c'est tordu par cette mauvaise conception qui est issue de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2 Corinthiens 3, verset 4. « Si nous avons de l'assurance, c'est du Christ que nous la tenons, parce que nous nous appuyons sur Dieu. Car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. C'est lui seul qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance. » Avec les hommes. C'est Paul qui parle. S'il est quelqu'un dont on a envie d'être les imitateurs, en tant qu'homme, c'est bien de Paul. Et Paul lui-même, il dit, pour nous ne pouvons rien faire. Pour nous ne pouvons même pas penser droit. Pour nous sommes incapables de prendre une décision valable. Un peu plus loin, il dit, cette alliance n'est plus basée sur un code des lois écrites, mais sur l'esprit. Car la loi avec ses commandements écrits mène à la mort, mais l'esprit, par contre, communique la vie. Car la loi gravée lettre par lettre sur des pierres ne pouvait conduire qu'à la mort. Et pourtant, son ministère fut inauguré avec un tel déploiement de gloire que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder Moïse en face, tant son visage était resplendissant. Cette gloire, toutefois, était bien éphémère. Elle s'évanouissait bien vite. Si donc le ministère annonçant la mort, c'est-à-dire la loi, a été entouré de gloire, comment celui qui communique l'Esprit divin n'en connaîtrait-il pas davantage? En effet, si un ministère qui juge et condamne les hommes a eu son éclat, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclaré juste par Dieu? Donc le ministère de la loi, c'est quoi? C'est la mort et la condamnation. On l'avait vu il y a quelque temps, 1 Timothée 1, à quoi sert la loi? Elle est pour les adultères, les irrespectueux, etc. etc. Elle n'est pas pour les enfants de Dieu. Romains 3, 19, 20. Voici ce qui est écrit. Nous savons que l'Écriture dit vrai et qu'elle s'adresse en premier lieu à ceux qui sont sous le régime de la loi, c'est-à-dire aux Juifs. Chacun a donc la bouche fermée. Tous les hommes auront des comptes à rendre à la justice divine. Le monde entier sera convaincu de culpabilité devant Dieu. En effet, comme le dit encore l'Écriture, aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par son observance de la loi. Aucun mortel ne sera par conséquent acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. La loi se borne à faire pleinement connaître le péché. Son vrai rôle est de nous en rendre conscients. Donc, tout ce qui est un système de faire ou de se conformer à une façon de faire, c'est la mort. Et si quelque part dans ton cœur, il y a de la mauvaise conscience, de la culpabilité, ou une forme de crainte, c'est que sans doute, quelque part, tu es dans un système de loi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, en Jean 1, 9, si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. En Jean 3, 20, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice. Puisque nous avons un si grand prêtre, si éminent placé à la tête de la véritable maison de Dieu, allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de toute mauvaise conscience ou de tout ce qui pesait sur nos consciences, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous avons été baignés dans l'eau claire. Et restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Car celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole. C'est intéressant. Nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. C'est pas moi qui le dis. Donc quelle place y a-t-il encore pour la culpabilité? Si tu éprouves la culpabilité, c'est que quelque part encore, en toi, un endroit, tu es encore sous la loi et la justice propre, et que tu estimes ce que toi tu penses étant supérieur à ce que Dieu dit. Tu te places au-dessus de Dieu. Et ce faisant, tu refuses la grâce et le pardon de Christ et son amour qui l'a conduit à la croix. Et ce faisant, tu rends nul la parole qui a le pouvoir de te libérer à cause de la foi. Parce que tu ne le crois pas. Hébreux 4, versets 1 à 3. Dieu a promis que nous pourrions entrer dans son repos. Ce repos, il nous parle de ça. Ce n'est pas juste je fais rien, c'est j'ai le repos. Moi, je ne sais pas vous, moi, ce qui me torture le plus, c'est quand dans ma pensée, on ne trouve pas la paix. Ça me bouffe de l'intérieur. C'est comme un acide à l'intérieur qui me ronge depuis l'intérieur et qui m'enlève toute paix. Et qui m'empêche de dormir la nuit, et qui fait que je tourne, je retourne, je cherche des solutions, et comment je vais faire, et qu'est-ce que je vais devenir, et si, et ça, et comment. Hein? Parce qu'on n'est pas dans ce repos. Parce qu'on empêche la parole de Dieu d'avoir son effet sur nos vies. Parce qu'on ne veut pas admettre, on ne veut pas croire, ou on ne peut pas peut-être à ce moment-là, mais c'est aussi une part de ma décision. Ça peut sembler bête au début, et je vous assure qu'il y a beaucoup de choses, le jour où je décide de conformer ma pensée avec la pensée de Dieu, il se passe quelque chose. Quand bien même, ça va prendre du temps pour être complètement effectif. Dieu a promis que nous pourrions entrer dans son repos. Et cette promesse reste valable. Il ne faudrait donc pas que l'un ou l'autre d'entre nous vienne en être privé, faute d'avoir saisi l'occasion en temps voulu. En temps voulu, c'est quand ? C'est quand j'en peux plus. C'est tout le temps, mais c'est en particulier quand j'en peux plus. Quand j'en peux plus, quand je suis fatigué de me battre avec mes pensées, c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'abdiquer et de commencer à dire ce que Dieu dit. Mais la culpabilité, c'est comme une drogue, en fait. Parce que souvent, avec notre façon religieuse de concevoir la vie chrétienne, on va l'utiliser un petit peu comme quelque chose qui nous empêche de sombrer dans la passivité. C'est un peu l'aiguillon. Il faut que tu en fasses un peu plus. Allez, on va l'évangéliser. Tu n'as pas donné de traité aujourd'hui. Parce que ça apaise notre soif de reconnaissance et de penser qu'on vaut quelque chose. Parce qu'encore une fois, on va croire que ce que je fais, ça détermine ce que je suis. Au lieu que ça soit Dieu qui détermine ce que je suis. Et parce que je comprends ce que je suis, ça me pousse. L'amour de Dieu me pousse, me contraint, me subjugue. Tout le combat, il se gagne ou il se perd au niveau de nos pensées. Vraiment, c'est ce que je crois de plus en plus. Et je vous assure que là où j'étais avant, on était vachement branché sur le faire. On veut nous faire croire aussi bien souvent que la culpabilité, c'est une émotion chrétienne. C'est normal, parce qu'on a conscience de notre péché. C'est bien d'être conscient de son péché. Parce qu'on pense que si je suis conscient de mon péché, ça va être comme un garde-fou. Mais quand on fait ça, je crois vraiment que c'est ce que Paul dit quand il dit qu'il y a des gens qui prêchent notre évangile. C'est cette mixture toxique que nous appelons bonne nouvelle et qui ne l'est pas. Et qui est, ok, Christ est mort pour tes péchés, mais maintenant, il va falloir que tu marches droit, mon gars. Et que tu paies, éventuellement. Et on pense facilement que la culpabilité, c'est un bon indicateur qui me dit si je fais bien ou si je ne fais pas bien. Mais c'est toujours lié à cette notion de faire. Et les Galates, c'est ce qu'ils avaient essayé de faire. Ils faisaient ce grand écart en disant, on prêche le salut par la grâce, mais maintenant, il faut aussi marcher dans la loi. C'est tout à fait ce qui était prêché chez eux. Galates 3.1. Galates insensés, qui vous a fasciné ainsi? Qui vous a ensorcelé? Heureusement que c'est lui qui le dit, que c'est pas moi. Qui vous a ensorcelé? Il parle à qui? Il parle à des chrétiens qui essayaient de faire un mélange avec les rudiments de la loi, avec des bribes de la loi. À savoir que, ok, on est sauvé par grâce, Christ est mort sur la croix pour nos péchés, c'est ce qui nous sauve, mais nous devons continuer à marcher dans les observances de la loi, c'est-à-dire dans le faire, pour plaire à Dieu. C'est exactement ça. Et souvent, on pense, ouais, non, c'était parce qu'ils étaient à moitié juifs et ils marchaient un peu dans le judaïsme et tout. Mais c'est la même chose. On l'a repeint. On l'a un peu redécoré. Non, c'est à la sauce charismatique ou messianique ou judéo-chrétien, ce que vous voulez. Mais en réalité, c'est toujours la même chose. C'est faire ce mélange entre la pure grâce de Dieu et marcher dans les œuvres. Et Paul dit, mais qui vous a ensorcelé pour vous faire croire qu'un type de christianisme comme ça, c'était l'évangile? Et puis, à d'autres endroits, il va encore plus loin. Quoi. Il dit, mais qu'il soit anathème, qu'il soit coupé de la communion. C'est fort, hein? Et nous, on essaie de nouveau de faire notre petite popote. Là, bon, alors un petit peu de grâce, hein. 3 gouttes de légalisme, une petite cuillère de je me moi, que j'ai un joli nombril et que je m'aime. Et en fait, non, c'est pas vrai, parce qu'on ne s'aime pas quand on fait ça. Et quand tu prêches la loi, les œuvres et les obligations, en réalité, d'après ce que Paul nous dit, tu prêches une hérésie. C'est fort, mais c'est Paul. Moi, je vais moins loin que lui. Moi, je dis, tu prêches une hérésie. Lui, il dit, vous êtes ensorcelé. Il dit clairement, c'est pas ça que je vous ai appris. Jamais je ne vous ai enseigné cela. Galates 4.17. Croyez-moi, ces gens-là s'empressent autour de vous. Ils vous témoignent beaucoup d'intérêt, mais leurs intentions ne sont pas pures. Ils veulent gagner votre faveur pour vous détacher de nous. Ils cherchent à vous soustraire à notre influence pour que vous vous attachiez à eux. Ils veulent en somme tirer profit du zèle qu'ils vous inspirent. Vous voyez, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. C'est que, au travers d'enseignements qui semblent avoir des fondements bibliques, on va ramener les gens dans une captivité en les rendant esclaves de notre enseignement, dépendants de notre enseignement, en les faisant marcher à la carotte et au bâton, et je te donne et je te tape, et je t'encourage et je te tape, et je t'édifie, mais il faut que tu me rendes. Et ceux qui ne veulent pas passer par là, on les massacre. Et vous ? Une fois, j'étais à un endroit, et c'était un culte de Sainte-Seine, parce que dans ce mouvement-là, c'était quelque chose de très particulier. On ne prenait pas souvent la scène, mais parfois, il y avait un culte de Sainte-Seine. Et le pasteur a commencé à faire une imprécation en disant, maintenant, ceux qui désapprouvent ma façon de faire, parce que je suis loin de l'Éternel, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, s'ils prennent la scène, ils sont maudits de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas en communion. Vous voyez, comme avec quelque chose qui est la beauté, et on fait de ce message-là, un message pour dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, qui suis loin de l'Éternel, lui, il pensait avec un apostrophe, mais je ne suis pas sûr, finalement. Il était peut-être loin, L-O-I-N. Vous êtes maudits de Dieu. Vous voyez comme on peut tordre les choses pour rendre les gens dépendants. Et vous savez, il a fini en disant, et ceux qui sont d'accord avec moi, se lèvent. Et que je sache, j'étais à peu près le seul à être resté assis. C'était une manipulation tellement flagrante, tellement évidente. On te met la pression, on ne te laisse pas le choix, je veux dire. Si tu ne te lèves pas, tu te bannis toi-même. Et combien de fois j'ai vu ça? Maintenant, ouais, tous qui sont, on va se lever, on va s'avancer, tout ça. Je comprends ce qu'on peut vouloir mettre de bon aussi dans ces choses-là. Il faut faire extrêmement attention avec ce qu'on fait. Honnêtement, je tremble, même Sarah, elle pourrait vous le dire. Chaque fois, bon, ça ne fait pas de très nombreuses fois que je viens ici, mais à chaque fois, je suis comme ça, je tremble. Quoi. Je dis, mais j'ai peur de dire des bêtises. J'ai peur de tromper les autres. J'ai peur de dire des choses qui vont tordre quelque chose. Vraiment. Et par-dessus tout, je ne veux pas que qui que ce soit adhère à quelque chose qui vienne de moi. Je ne veux pas que les gens qui écoutent ce que je dis adhèrent à moi. Je voudrais juste les amener à être exposés plus à la lumière de Christ. Et vraiment, je viens avec, pas de la crainte, parce que je n'ai pas peur que Dieu me rejette, mais de la crainte de mal dire, ou de tordre, ou d'abîmer. Vous voyez ce que je veux dire? Et on prend trop les choses à la légère avec le peuple de Dieu. Ce que je vous dis, c'est extrême, mais je l'ai vécu. Et des choses comme ça. Vous allez sur Internet, des messages comme ça, il y en a 13 à la douzaine. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un truc, j'étais offusqué. D'ailleurs, normalement, moi, je ne mets pas trop de commentaires sur les choses que je lis, mais là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Un pasteur qui raconte que son fils a été foudroyé parce qu'il avait mis le feu à la Bible. C'est un peu comme ce que Denis Morissette nous racontait. Il avait été invité, je crois que c'était en Amérique du Sud, et il était embêté avec sa Bible. Du coup, il pose sa Bible par terre. Et quelqu'un est venu, il lui dit, oh frère, là, tu viens de commettre une faute grave. Et qui dit, tu as méprisé la parole de Dieu. Oh, wow. Vous voyez comme on peut tellement tordre les choses et rendre les gens dépendants d'une manière de penser qui n'est pas biblique, elle est diabolique. Parce que si c'est pas la vérité, c'est le mensonge. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative. C'est ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Ou c'est blanc ou c'est noir. Alors souvent, on reproche aux chrétiens d'être manichéens, c'est ça. Noir, blanc, vrai, faux. Mais la parole de Dieu, ou elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Et ce que je dis, ou c'est vrai ou c'est pas vrai, jusqu'à un certain point, bien sûr, jusque dans une certaine mesure. Tu ne peux pas rendre les gens esclaves comme ça. C'est de la manipulation. Et si en France ou en Europe, c'est un peu mieux fait, en Afrique, c'est offensant. Moi, je suis en colère quand je vois des types qui n'en peuvent plus d'être gros, avec leur gros 4x4, leur trône sur l'estrade, qui se font appeler ministère international, patati patata, etc., etc., et qui mettent la pression sur les gens. Bon, en même temps, c'est pas la peine d'aller loin. Moi, j'étais une fois à une réunion à Montpellier, et le gars m'a dit, vous avez vu les fruits de mon ministère? Vous en voulez une part? Sortez vos portefeuilles. Texto, hein? Bon, je le dis avec mes mots, mais c'était la même chose. Hein. C'était juste mieux enrobé. Mais les enrobages, j'aime pas trop ça, moi. Mais le fond, c'était ça. Vous voulez une part de ce que vous voyez de ministère et d'onction sur ma vie? Sortez vos portefeuilles et vous recevrez à la hauteur de ce que vous allez donner. C'est l'évangile, ça? C'est des gourous. Et c'est des gens qu'on a en sens. Et on dit, ah, ouais, mais il a un ministère tellement puissant, et son église, elle grandit, etc., etc. Galates 5, versets 2 à 4. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens, issus du paganisme, vous consentiez à vous faire circoncire, c'est-à-dire donc à vous soumettre au rite d'admission du judaïsme, c'est-à-dire sous la loi, le Christ ne vous serait plus d'aucune utilité. Et je vous préviens, une fois de plus, que tout homme qui se soumet à ce rite s'engage par là à respecter toutes les autres prescriptions. Il est tenu d'observer sans exception la loi tout entière. Mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire, à la vraie vie, vous n'avez plus rien de commun avec le Christ. Si vous voulez gagner l'approbation divine et être déclaré juste par vos efforts et vos œuvres, vous vous coupez de la communion avec le Christ. Vous quittez le domaine de la grâce de Dieu. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein, Paul, hein. Il va à la tronçonneuse. Hein. Vous êtes déchus de la grâce. Romains 3, 20. Et nul ne sera trouvé juste devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est fort, hein. C'est ce que je vous disais. On croit que c'est pas grand-chose. On croit que, ouais, mais un petit peu, ça fait pas de mal. Frère, quand même, tu exagères. Mais je vous assure que c'est des choses... Je commence juste à ouvrir les yeux là-dessus. Et j'espère que ça va produire la même chose sur vous. Parce que ça va vous rendre libre. Et ça commence à faire ce travail de liberté dans ma vie. Alors c'est vrai que ça me perturbe aussi, parce que je me retrouve un peu comme les ballons à gonfler d'hélium. Là. Ça part dans tous les sens, on ne sait pas trop où ça va aller. Mais je me rends compte qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans. Et que si on entre là-dedans, ça va ouvrir des perspectives qu'on n'a même pas imaginées une seule fois dans nos vies. Galates 3, 11, personne ne trouvera la vie véritable et ne sera déclaré juste devant Dieu en obéissant au commandement de la loi. Cela découle avec évidence de cette autre parole de l'Écriture. Celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui. Sa foi sera pour lui source de vie. C'est puissant, hein ? Jésus a dit, si tu bois de mon eau, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, de l'intérieur de toi. Ça ne parle pas de la poitrine, ça parle de l'intérieur de soi, de ce qui est profond en toi. Ta source, elle va être profonde en toi. Et ça va jaillir à l'extérieur de toi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça commence dedans. C'est une refonte de l'intérieur vers l'extérieur. Et le message du « tu dois faire » nous incite à aller boire ailleurs. Il essaie de nous faire croire « ah, mais il y a encore quelque chose de bon à puiser de l'autre côté ». Et souvent, ce type de messages, ils vont t'infantiliser en te faisant croire que tu n'es pas capable de boire seul, que tu n'es pas capable de trouver le bon endroit tout seul, que le Saint-Esprit, ça ne te suffit pas, que tu as besoin de te soumettre à une discipline. Moi, on m'a fait croire pendant des années que dans l'Église maintenant, la relation David-Saül, c'était la même. Et que quand bien même ton responsable se plante, toi, tu dois obéir. Ta part à toi, c'est d'être soumis. Peu importe ce qu'il dit, ce qu'il fait. Parce que si tu te soumets, Dieu va t'élever. Et si tu ne te soumets pas, Dieu va te rejeter. Pendant plus de 10 ans, j'ai accepté ce genre de message. Jusqu'au jour où, par la grâce de Dieu, j'ai été expulsé. Absolument, c'est pour ça qu'il y a des dépressifs dans les églises. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont découragés dans les églises. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent « Écoute, si c'est pour se casser la figure tout le temps, autant rester couché, comme ça je suis sûr de ne pas tomber. » J'ai entendu. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit « Venez à moi. Viens à moi. Viens à moi. À moi. Je suis la source de vie. Je suis le pain qui est venu du ciel. Je vais te nourrir. Je vais prendre soin de toi. » Parce que j'ai vu que tu avais de la valeur et que j'ai donné le prix pour que tu sois à moi, pas à un ministère, pas à un mouvement, pas à une dénomination, même pas à une église locale, pour que tu sois à moi. Et quand tu commences à comprendre ça, ça ouvre aussi ton regard sur l'église. Et je crois en l'église locale, vraiment. C'est quelque chose d'important, la communion fraternelle, quelque chose de vital. Mais ça ne s'arrête pas là. Moi, quand je vais en Afrique, je suis dans ma famille. Je suis allé en Roumanie, j'étais dans ma famille. Je suis allé en Angleterre, j'étais dans ma famille. Je suis allé au Canada, je suis allé dans plein d'endroits. Et à chaque fois, j'étais tellement béni de me sentir en famille. Je ne me sens pas un élément rapporté, une pièce rapportée. Je suis dans ma famille. Et quand il y a des gens qui passent et que j'ai le privilège de les accueillir dans ma maison, je veux qu'ils sachent qu'ils sont les bienvenus, qu'on est sa famille, qu'on n'a peut-être pas tout à 100% pareil, mais que c'est la famille. Et ce n'est pas la famille par la chair et par le sang, mais c'est la famille parce que nous avons été adoptés. Matthieu 16, verset 5. Quand les disciples furent arrivés de l'autre côté du lac, ils s'aperçurent qu'ils avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit, « Faites bien attention, méfiez-vous soigneusement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Pourquoi a-t-il fait cette remarque ? Se demandèrent-ils. « Sans doute parce que nous n'avons pas pensé à prendre du pain. » Et Jésus se rendit compte de ce qu'ils pensaient, il leur dit, « Votre foi est bien faible, les petits. Pourquoi vous préoccupez-vous de ne pas avoir de pain ? Vous n'avez pas encore compris. Avez-vous déjà oublié les 5 pains distribués aux 5 000 hommes et le nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes ? Ou les 7 pains distribués aux 4 000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportées ? Comment pouviez-vous penser qu'il s'agissait du pain pour le repas quand je vous disais « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ?» Or, on peut imaginer que les disciples, malgré tout ce qu'ils avaient vu, ils en étaient encore à considérer les choses de ce monde, déconscients de leur manquement. Quand Jésus leur dit « Méfiez-vous du pain », ils pensent qu'il est en train de leur montrer leur faute, de leur dire « Ah les gars, franchement, je ne peux pas compter sur vous. Si je ne pense pas à tout, ça ne marche jamais. » Il faut encore que ça soit moi qui m'occupe de tout. Encore. Et ils sont là, j'imagine, « Ouais, c'est toi, non, c'est lui. Ouais, c'est Judas. Judas, t'as mis où les sous ?»« Oh, j'en ai pas. » Il dit ça parce qu'il sait qu'on a oublié la nourriture. Et c'est une bonne image de ce qu'on disait tout à l'heure. Pour entendre clairement la voix de Dieu, ça demande d'être libre de la culpabilité. Les disciples, là, ils sont là. La culpabilité, la condamnation, la honte et le désir de bien faire. Là, les disciples, ils sont là et qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire ? Ah, on a encore oublié de prendre le pain. Parce que je veux dire, les multiplications, c'était déjà dû à ça, hein, en partie. 3e fois qu'on oublie encore. C'est toi qui, on t'avait dit que ça serait toi, là. Non, 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 c'est pas moi. C'est... Et comme Adam et Ève et le serpent. Adam, oh non, c'est la femme. que tu m'as donné. Attention, hein, c'est pas moi. Et la femme, ah non, c'est le serpent. L'autre, mince, il n'y a plus personne. Et parce qu'ils sont dans ce fonctionnement de culpabilité, de faire, de bien faire, de chercher à plaire et de peur de déplaire, ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Et chaque fois que tu vas fonctionner dans ce régime-là, tu vas toujours mal interpréter ce que Jésus dit. Et c'est valable dans toutes nos relations. C'est valable dans nos relations avec les autres. Si on a une pensée de culpabilité, de condamnation, etc., etc., tout ce que les autres vont nous dire ou ne pas dire, ça va nous affecter à ce niveau-là. Des fois, c'est un regard. Vas-y, dis-moi ce que tu penses. J'ai rien voulu dire. Si, si, j'ai bien vu comment tu m'as regardé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Pourquoi ? Parce que ça va faire écho à une insécurité qui est au fond de moi, qui trouve ses racines dans la culpabilité. Parce que je pense, je me mésestime, ou je pense que je n'ai pas bien fait, ou je pense que je mériterais une punition. Du coup, quand tu vas venir vers moi et que tu vas me dire ou pas dire, tu vas me regarder ou tu ne vas pas me regarder, de toute façon, tout va être interprété. T'es mort. Quoi que tu fasses ou que tu ne fasses pas, t'es mort. Ça va être interprété. Et tout ce que tu diras pourra et sera utilisé contre toi. Et c'est terrible. C'est terrible. Et vous voyez comme quoi des petites choses qu'on discerne mal, ça peut complètement polluer tout le reste. Et en fait, Jésus, il n'en a rien à faire du repas. Si on en juge par ce qu'on sait, sauter un repas, ça n'avait pas l'air d'être trop un problème pour lui. De toute façon, même s'il fallait, il avait des ressources. S'il avait vraiment envie de manger, il avait des ressources. Quand il a fallu de l'argent, il a fait venir un poisson. Quand ils n'ont pas eu de poisson, il a fait venir les poissons dans le filet. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas pourvoir ? Et pourtant, ils avaient été témoins des miracles et encore une fois, de la surabondance de la réponse de Dieu. Jésus, et c'est lui qui le dit. Et tous les restes qu'il y a eu, il leur dit, tu penses tellement petit. On est quoi là, 15, 16 là ? Et tu te prends la tête, j'en ai nourri des milliers, avec rien du tout, ou quasiment rien. Et il en est resté au point qu'on ne savait plus quoi en faire. Deux fois. Et là, tu t'arrêtes. Jésus est en train de dire que je n'ai pas bien fait. Jésus leur dit, votre foi est si petite. Votre foi est si petite. Vous ne comprenez pas que je vous parle de choses tellement au-dessus de ça. Ça, je vous ai déjà dit, ne vous inquiétez pas. Je croyais que c'était réglé. Ne vous inquiétez pas de ça. Je suis en train de vous parler d'autre chose. Vous ne voyez pas qu'il y a plus. Vous avez oublié que je pourvois abondamment. Et alors, ils comprirent que Jésus leur parlait de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Et c'est intéressant. Jésus, il les met en garde contre quoi? Contre la doctrine. Il ne les met pas en garde contre les démons ou les stratégies démoniaques. Il leur parle de la doctrine. Et vous verrez que, je peux me tromper, mais si vous cherchez, moi j'en ai pas trouvé, a priori, d'endroit où Jésus met en garde contre les démons. Par contre, plusieurs fois, il met en garde contre les doctrines et les manières de penser. C'est flagrant que régulièrement, il met ses disciples en garde contre la doctrine, c'est-à-dire contre ta manière de penser, contre ta conception. Pourquoi? Parce que Jésus savait que les doctrines légalistes pouvaient faire bien plus de dégâts que ce qu'un démon peut faire dans ta vie. Parce que c'est comme des œufs de serpent qui sont semés dans tes oreilles. Et un jour ou l'autre, ça va éclore. Vous savez que les cobras, dès qu'ils sortent des œufs, ils ont l'agressivité et la capacité de tuer. Tout petit, petit, petit. Et ça va te tuer. Ça a la capacité de te tuer. Ça a la capacité de détruire ta vie. C'est pour ça qu'il les met en garde. C'est vrai qu'il a dit, Pierre, le diable a demandé à te cribler. Mais quand tu seras revenu, tu fortifieras tes frères. Par contre, plusieurs fois, il leur dit, méfiez-vous. Méfiez-vous des enseignements et de l'influence légaliste et des conséquences que ça va avoir sur ta vie. Si tu commences à en croire un tout petit peu, une parcelle de légalisme dans beaucoup de grâce, ça va faire lever toute la pâte. Ça va affecter l'ensemble de la pâte. Ça va affecter toute ta compréhension de Dieu, mais aussi la compréhension du regard de Dieu sur ta vie. Et du coup, ça va affecter tes relations avec les autres. Un tout petit peu de levain fait lever toute la pâte. Jésus, il veut leur transmettre ça, parce que là, il les voit dans la peur, il les voit dans l'incrédulité. Oh, on a mal fait, le maître va être pas content. Jésus leur dit, non, ce qui est important, c'est ce que tu crois dans ton cœur. Parce que là, ce que tu es en train de manifester, là, c'est que tu ne me comprends pas. Me connais pas. Si tu me connaissais, tu n'aurais pas cette crainte. Si tu me connaissais, tu saurais que je ne te regarde pas avec ce regard-là. Le vin, c'est le dictionnaire biblique Vines, il est défini comme un pouvoir invisible qui produit un effet, une faculté, une capacité de faire et d'affecter quelque chose. Galates 5, versets 8 et 9. En tout cas, soyez-en certains, une telle influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Hélas, il suffit d'un peu de levain pour aigrir toute la pâte. Un peu d'erreur, quelques faux docteurs, une pincée de légalisme, et voici que toute l'Église est comme en fermentation. Ça pervertit tout, ça nous rend myopes, ça déforme le message de la grâce. Et ça le rend inefficace, comme on l'a vu tout à l'heure. Romains 1, 16. « Car je n'ai pas à rougir de l'Évangile. » Car je suis fier de l'Évangile. Car c'est une puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent avec foi. C'est la puissance de Dieu pour délivrer, pour guérir et pour sauver. Mais avec quelques parcelles de légalisme, on va tout polluer. On va polluer le cœur du croyant. Et Dieu nous appelle à vivre libre de tout sentiment de culpabilité. Et la culpabilité, elle vient de la religiosité. Et la suprême intention de Dieu, comme on l'a vu plein de fois, c'est de te rendre libre. Libre des chaînes du passé, mais libre de grandir et d'avancer dans cette vie nouvelle que Dieu t'a donnée. Romains 8, 1. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons plus à redouter aucune sentence contraire. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Et cette puissance vivifiante de l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ça, c'est rajouté. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En fait, ça a été rajouté. Alors, c'est intéressant parce que, quand même, dans leur aveuglement, les gens, des fois, ils sont honnêtes. Vous voyez, dans la mienne, c'est bien rajouté, là, dans celle-là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Hop, petit S. Les mots entre crochets manquent dans les meilleurs manuscrits. Pourquoi ils les ont mis? Tout en mettant que ça apparaît pas dans les meilleurs manuscrits. Pourquoi ils les ont mis? C'est comme quand des fois tu as des traductions, tu te dis ça parle de quoi? Et en dessous tu as marqué littéralement, et puis là ça prend du sens. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas? Qu'est-ce qui est vrai? Parce que c'est toujours bien de garder un petit peu de religion. Parce qu'en réalité, dans le grec, donc il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de prérequis. C'est un fait. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Ça change quand même un peu la donne. Hein. Et c'est sans doute le côté religieux hérité de nos ancêtres qui a fait qu'on a cette propension à vouloir amener les choses sur le terrain du fait ou fait pas. Et c'est intéressant parce que si on regarde bien, Romains 8, il n'y a donc, cette tournure de phrase sous-entend que ce qu'on est en train de lire, c'est lié à quelque chose qui a été dit avant. Et c'est en ça qu'il faut être très vigilant avec ces découpages de chapitres et de versets qui sont très pratiques pour chercher, mais qui souvent influencent notre manière de lire les choses. Parce que le verset 1 du chapitre 8, il n'est que la suite des versets précédents du chapitre 7. Je veux dire, ce n'est pas autre chose. On a clos le chapitre 7, maintenant on va parler d'autre chose. Non, c'est maintenant donc qu'il n'y a plus de condamnation. Ça parle de quoi? Ben, ça parle des versets précédents. Où Paul nous explique notre incapacité à faire bien. Verset 19, par exemple. Il dit, si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi-même. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus mon moi, c'est le péché qui a élu de mes cils en moi. Verset 24, qui me délivrera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui m'affranchira mon corps d'esclave de ces mauvais instincts? Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et maintenant, il n'y a donc plus de condamnation. C'est chouette quand on lit les choses comme ça, quand on relit les choses entre elles. Parce que la pensée de Paul, c'est ça, c'est par moi-même, je suis incapable. Je ne peux pas. J'ai le désir, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Qui peut changer ça? Christ l'a fait. Et donc, maintenant, il n'y a pas de condamnation. Parce que Christ l'a fait, parce que j'étais incapable par moi-même de faire cette chose-là. Donc je ne peux pas être condamné et sauvé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'idée? Paul, il est en train de développer cette idée-là. Moi, par moi-même, je ne peux pas. Heureusement, Christ l'a fait. Et c'est pour ça que je ne suis pas condamné. Parce que Christ l'a fait pour moi. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils pour triompher à ma place, afin que tout cela devienne possible. Et c'est quand? C'est maintenant. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation. Et donc, Paul met en opposition ces pensées-là. Il y a mon incapacité. Sans Dieu, je ne peux pas. Mais en Christ, tout est possible. Et verset 10, il dit, et si le Christ vit en vous, vous êtes des hommes nouveaux, vivifiés par l'Esprit, déclarés justes, versets 15 et 17 du chapitre 8, hein, toujours. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile, l'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave, il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte, il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Abba, papa, mon cher papa. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils, Jésus, sera aussi mien, si nous sommes unis à lui, etc., etc. Donc la condition, c'est juste que je sois uni à lui, c'est que je lui appartienne. Et si je tombe, cette fois le juste tombe, et cette fois il se relève. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur l'œuvre accomplie de Christ. Il ne se laisse pas aller à la culpabilité, mais il croit en la grâce et met sa foi dans l'amour de Christ. Et comme on l'a vu tout à l'heure, tu ne peux pas perdre ta valeur, quand bien même tu fais des erreurs. Car c'est Dieu lui-même qui a déterminé ce que toi tu vaux. Et nous savons le prix qu'il a dû payer pour que nous soyons à lui. Tu crois vraiment qu'il va renoncer à toi parce que tu t'es planté ? Non. La parabole de la drague, elle nous le dit clairement. Il va chercher. La femme, elle a perdu quelque chose qui est à elle. Hein. C'est pas un truc qu'elle a trouvé. On ne lui a pas dit, oh, il y a une drague quelque part dans la pièce. Si tu balais, tu vas la trouver. Non. C'est quelque chose qui lui appartient. Comme l'a dit Gisèle, c'était très intéressant. Ça fait partie de sa dot, merci. Quelque chose qui lui a été donné. De Pierre 1, on va commencer au verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus profonde de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Et par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Et grâce à elles, vous pouvez échapper à l'empire des passions qui mène ce monde à la ruine, etc. Ce qui est important, ce que je voudrais souligner, c'est que nous avons reçu tout, toute chose, tout ce dont tu as besoin. Il a pourvu pour tout. C'est vraiment quelque chose auquel on a besoin de s'attacher, de s'accrocher. Je crois qu'on va s'arrêter là. Seigneur, on veut te remercier pour qui tu es, Seigneur. Te remercier pour la valeur que tu donnes, Seigneur, à nos existences. Merci pour qui tu es, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que toi, tu as ce pouvoir, Seigneur. Tu as ce pouvoir de changer, Seigneur, de transformer, Seigneur. De guérir, Seigneur, de délivrer pleinement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que la compréhension que j'ai, dans laquelle je grandis de ton amour pour ta créature, Seigneur, et la valeur que tu attribues à chaque être humain, ça m'aide à comprendre ton amour pour moi, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que ça me délivre du jugement, de la culpabilité, Seigneur, et des chaînes que ça met dans ma vie, Seigneur. Du jugement que je peux avoir sur ma vie, du jugement que je peux avoir sur la vie des autres, et du jugement que les autres peuvent avoir sur ma vie, Seigneur. Et vraiment, je te remercie pour ça, Seigneur. Merci pour cette liberté que tu m'as acquise, Seigneur.